Il est 8h10, merci pour votre fidélité à RCF et Radio Notre-Dame. Dans 20 minutes, vous retrouverez le journal international de Radio Vatican, présenté par Xavier Sartre. Mais d'abord, l'invité de la matinale. Et c'est une bonne nouvelle pour la biodiversité. En novembre dernier, en Colombie, les négociations avaient échoué. Alors, rebelote, les États membres de l'ONU se sont retrouvés à Rome la semaine dernière pour une nouvelle réunion de cette COP16 sur la biodiversité. Ils ont trouvé in extremis un compromis jeudi dernier. L'accord prévoit un plan de financement de protection de la nature. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec l'entomologiste Philippe Grandcola. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Directeur de recherche au CNRS, vous avez publié chez Tana Édition Biodiversité et Fake or Not. Alors la présidente de cette 16e COP, Susanna Muhammad, s'est réjouie de l'accord trouvé. C'est un jour historique pour la biodiversité, a-t-elle lancé sur les réseaux sociaux. Faut-il se réjouir du bilan de cette COP16?
Oui, bien sûr. De toute façon, il est important que finalement cet accord soit intervenu. On voit que ce n'était pas le cas à Cali, en Colombie, il y a quelques mois. Donc, on pouvait être très inquiet, d'autant plus que cet accord est un premier pas dans une direction après plus de 20 ans de suivi de la Convention sur la diversité biologique qui avait été signée en 1992. Au sommet de la Terre à Rio. Donc on a mis plus de 20 ans malgré tout à aller finalement vers l'application d'un accord après bien des échecs précédents.
Et justement, qu'est-ce qui avait bloqué en novembre dernier?
Alors en novembre dernier, ce qui a bloqué, c'est la question du financement des mesures qui doivent être prises, et notamment des mesures pour arriver à financer des aires protégées. Et en fait, ce qui bloque tout simplement, je pense que c'est que les États n'arrivent pas à comprendre que la biodiversité, c'est un bien commun. Chacun la voit chez soi en pensant que, voilà, aux pays sud-américains de financer des parcs, par exemple, en Amazonie, aux pays européens de financer chez eux des parcs en Europe, etc. Alors qu'en réalité, au-delà de la question éthique, la biodiversité, en réalité, elle ne nous appartient pas. Et puis d'autre part, il y a un bien commun dans la mesure où cette biodiversité, par exemple les puits de carbone biologiques, qui profitent de manière globale au climat. Si pour l'Europe, par exemple, certains peuvent penser qu'on n'est pas concerné par la disparition de l'Amazonie, d'abord c'est une hérésie au plan éthique, et puis d'autre part c'est une absurdité au plan écologique, puisque nous en dépendons pour le maintien d'un climat viable sur la surface du globe terrestre.
L'accord prévoit 200 milliards de dollars par an d'ici 2030 en dépenses mondiales de protection de la nature. On a du mal à estimer si c'est beaucoup, si c'est pas assez. Vous, qu'en pensez-vous, Philippe Grandcola?
Écoutez, la somme, évidemment, paraît très importante, mais néanmoins, en fait, on se rend compte que quand on prend en compte l'ensemble des aires qu'il faudrait protéger sur le globe terrestre, il faut se rappeler que le cadre mondial pour la biodiversité qui avait été établi lors de la COP précédente prescrit qu'on a à peu près 30% d'air protégé, que ça soit au niveau terrestre ou au niveau marin, c'est colossal, c'est absolument indispensable et c'est colossal puisque il faut penser qu'à chaque fois qu'on établit une aire protégée, ben il faut modifier la législation, il faut engager des personnels pour suivre cette aire protégée, hein, ne serait-ce que par exemple en France, quand on crée un parc national qui est une aire relativement correctement protégée, on aura besoin d'engager des personnels, hein, ce qu'on a bien du mal à faire. En règle générale, on a du mal à créer ce type d'emploi parce qu'on considère que c'est en quelque sorte une cerise sur le gâteau, hein, qu'il y a des choses plus importantes.
Et vous pensez qu'il n'y a rien de plus important que la biodiversité, Philippe Grandcola? 30 milliards devront être fournis par la nation développée aux pays les plus pauvres. Ça, c'est un point qui fait polémique. C'est-à-dire l'aide apportée par les pays les plus riches aux pays en voie de développement. 30 milliards, est-ce suffisant?
Écoutez, on se rend compte, encore une fois, que c'est très difficile pour beaucoup de pays de comprendre que ils ne vont pas finalement essayer de remplir un fonds qui ne leur profite pas directement. Je pense que pour beaucoup d'administrateurs de biens dans nos pays développés, ça ressemble un peu à une gabegie, hein, comme si on allait financer des actions très coûteuses dans des pays lointains, dont par ailleurs on pense que leur gestion est perfectible, etc. Alors qu'en réalité, encore une fois, on dépend de cette biodiversité, on dépend des forêts pour fixer le gaz carbonique, on dépend des forêts pour garder les climats en bon état et le cycle de l'eau localement, on dépend des milieux marins de la même manière. S'il n'y avait pas d'algues et de plancton en bon état et de mammifères qui broutent ce plancton dans les océans, on n'aurait pas de climat correct. Et il faut se rappeler que 30% des gaz à effet de serre sont captés par les puits de carbone naturels, biologiques. Donc on a absolument besoin de tout cet ensemble, sans parler bien sûr en plus du fait que même nos zones cultivées, sur lesquelles on a de l'agriculture vivrière, ce qui a bien du mal à être compris par un certain nombre de pays aujourd'hui, hein, qui se préoccupent surtout des exportations de céréales pour la nourriture animale ou des agrocarburants. Quand on a de l'agriculture vivrière, elle dépend elle-même de ces climats qui sont maintenus par les aires adjacentes protégées. Donc on a vraiment un enjeu économique énorme. Les économistes de l'environnement savent très bien que plus d'un tiers du PIB mondial, même si c'est une mesure très perfectible, hein, très productiviste, un tiers du PIB mondial dépend directement de la biodiversité. Donc en réalité, c'est pas une dépense, même si elle semble importante, c'est une dépense finalement qui est tout à fait proportionnée aux intérêts immédiats donc, que nous avons à propos de la biodiversité.
Vous parlez de l'enjeu économique, vous avez parlé aussi, vous avez mentionné le fait que toutes les créatures sont liées, c'est ce que dit aussi le pape François dans Laudato Si, au paragraphe 42. Toutes les créatures sont liées, chacune doit être valorisée avec affection et admiration, et tous en tant qu'êtres, nous avons besoin les uns des autres. Cette parole du pape François qui fait un petit peu écho à ce que vous nous disiez là. Un des objectifs phares, vous en parliez aussi Philippe Grand-Cola, la protection de 30% des terres et mers d'ici 2030. Est-ce qu'aujourd'hui on est sur la bonne trajectoire?
Alors non, on est vraiment, enfin en tout cas on essaye d'aller vers cette trajectoire, mais pour le moment on n'y est pas. Même en Europe, hein, y compris en France, on se gargarise un peu d'aller vers ces 30%. En réalité, on a sur le papier, on a un certain nombre d'aires protégées, mais dont beaucoup, même si leur statut juridique correspond, on va dire, à la définition internationale, mais leur niveau de protection est totalement insuffisant. Par exemple, on a des aires marines dans lesquelles le chalutage de fond est autorisé. Enfin, c'est une absurdité totale. Voilà. Donc, on prétend aller dans la bonne direction, mais il y a encore beaucoup d'efforts à faire.
On a du mal à comprendre quand même ce 30%, parce qu'on se dit, OK, 30%, on va protéger la biodiversité sur 30%. C'est-à-dire quoi? Sur les 70% restants, on peut faire ce qu'on veut?
Alors, dans le cadre mondial pour la biodiversité, bien sûr, il y avait d'autres mesures. Hein. L'idée, c'est évidemment pas de saccager 70% du globe terrestre.
En se rachetant une morale sur 30%.
Voilà, en fait, on a vraiment besoin d'avoir 30% où les pressions sont vraiment, vraiment minimes. Parce que, encore une fois, c'est une nécessité absolue au plan fonctionnel. Et puis, d'autre part, sur le reste, évidemment, on a la question de la restauration, on a la question de la baisse des pollutions. Et notamment pollution par pesticides, hein, qui ne cesse d'augmenter. Il faut se rappeler que nous avons suspendu le plan Ecophyto en France et nous avons substitué un indicateur très correct, un indicateur européen qui n'a absolument aucun intérêt. Donc on n'est pas, de ce point de vue-là, non plus sur la bonne trajectoire. Hein. Voilà, donc on peut se réjouir, pardon, d'un côté que cet accord soit intervenu et qu'il y a, voilà, quand même, malgré tout, qu'on n'est pas totalement orthogonal avec la réalité. Mais d'un autre côté, il y a d'énormes efforts à faire, y compris en dehors des aires protégées et par rapport à l'accord international que la France et l'Europe ont eux-mêmes signé, pour lesquels ils ont négocié. Donc il y a un peu de schizophrénie aussi de la part de nos gouvernements qui, d'un côté, négocient bec et ongles, hein, il faut reconnaître la qualité des négociateurs de ce point de vue-là, et puis de l'autre côté, et qui prennent des mesures sans cesse rétrogrades en matière d'environnement, comme on le voit actuellement avec le détricotage du pacte vert au niveau européen.
Vous parlez du pacte vert européen. En France aussi, il y a la loi agricole que vous pointez du doigt, Philippe Grand-Cola?
Oui, bah tout à fait. Dans la loi agricole, il y a des choses qui profitent pas du tout aux PME agricoles et qui profitent en réalité à un certain nombre de tenants de l'agriculture industrielle et qui, en fait...
Néfastes pour la biodiversité.
Tout à fait. Par exemple, comme le fait de ne pas reconnaître qu'une destruction non intentionnelle doivent être punies. Mais comment pourrait-on savoir qu'une destruction soit intentionnelle ou pas? Il y a vraiment...
Il y a controverse.
Voilà, oui, il y a plus que controverse. Là, tous les scientifiques sont complètement unanimes pour reconnaître que cette loi n'a aucun sens, d'autant plus que une des préconisations, en fait, se base sur le fait que nous devons assurer notre indépendance vivrière, alors qu'en réalité, comme je le disais tout à l'heure, la majeure partie de ces productions ne sont pas le fait de petites PME agricoles qui souffrent, et sont dédiées à des productions qui n'ont aucun intérêt au plan vivrier, qui sont en plus la majeure partie du temps exportées.
Là, on s'est arrêté sur la France et l'Europe. Il y a les États-Unis aussi. Alors, ça n'est pas sur la biodiversité, mais sur le climat. Les États-Unis se sont retirés de l'accord de Paris. Est-ce que la méfiance de Donald Trump vis-à-vis de l'écologie, et méfiance est un euphémisme, est un risque pour la biodiversité à moyen et long terme?
Ah oui, tout à fait. Bon, on le voit. De toute façon, le gouvernement de Donald Trump détricote absolument toutes les actions possibles en matière d'environnement. Il détruit actuellement les agences de l'environnement, hein, en limogeant littéralement des centaines et des centaines de personnels qualifiés qui mettaient en œuvre la politique de défense de l'environnement. Mais ça va très loin, hein. C'est un petit peu comme si en France, on limogeait la majeure partie des personnels, un certain nombre de groupes publics comme Météo France, l'ADEME ou l'OFB. Hein. D'ailleurs, on entend chez nous, malheureusement, des personnels politiques qui, en fait, tiennent ce type de propos complètement absurde.
Mais Philippe Grand-Collat, est-ce qu'on peut faire sans les États-Unis? On n'a pas le choix, quelque part. C'est comme la Chine, j'aurais pu prendre l'exemple de la Chine, dont on parle peut-être moins, mais je ne sais pas très bien ce qu'ils font sur la biodiversité, vous allez nous le dire. Mais quelque part, si on fait sans la Chine, sans les États-Unis, eh ben, la biodiversité, par nature, c'est mondial, ça ne s'arrête pas aux frontières.
Alors, c'est ce que les économistes ou les écologues ont appelé la tragédie des communs. Quand on a des biens communs et qu'un certain nombre de personnes trichent ou se comportent mal, évidemment, les autres acteurs de la gestion de ces biens communs sont devant une espèce de dilemme. Hein. C'est-à-dire, est-ce qu'on doit faire quelque chose sachant que les autres ne font pas? Ou est-ce qu'on ne fait rien et puis on laisse la situation aller à volo? Alors, évidemment, la réponse, on la connaît tous. Hein. On est bien obligé de faire malgré tout. Parce que sur l'ensemble de la planète, si tous les acteurs se mettent à mal se conduire, alors la situation va encore se dégrader encore plus vite. Et bien évidemment, c'est tout le problème, comme je le signalais au départ, de la conception de l'humanité, hein, qui a du mal à comprendre que l'atmosphère, que les océans, que un certain nombre de milieux terrestres, comme les forêts par exemple, les forêts naturelles, je ne parle pas de plantation d'arbres, hein, sont des biens communs et évidemment qu'on n'a pas le droit quelque part d'aller les dégrader au détriment du reste de l'humanité.
Mais donc si je vous suis bien, cet accord de Rome dont on parlait, qui a été signé la semaine dernière, en fait il ne vaut rien si Trump et son administration le détricotent.
Alors non, justement, en fait, il vaut ce que vaut l'action de toutes les parties prenantes. Mais évidemment, si certaines parties prenantes particulièrement importantes ne sont pas capables de jouer leur rôle, bah, il sera moins bien appliqué.
Les États-Unis ont signé la semaine dernière?
Alors les États-Unis, en fait, sont parties prenantes de cet accord, hein, même si ils n'ont jamais ratifié à proprement parler la Convention sur la diversité biologique. Hein, ils l'ont signé, mais pas ratifié cette convention en 92. Vous savez que les États-Unis ont toujours une particularité en matière de politique extérieure, c'est qu'ils ne veulent pas finalement être contraints par des accords internationaux. Hein. Ils en ratifient très peu au plan juridique. Alors après, voilà, ce qui est important surtout, c'est de se rendre compte que bon, on est sur une trajectoire qui importe pour l'humanité à l'échelle de quelques décennies. Alors évidemment, on a déjà tellement pris de retard qu'il n'est pas question d'atermoyer. Mais néanmoins, voilà, M. Trump va passer. Il a un seul mandat, il est en train de détruire son pays, pour plein de raisons, et pas seulement environnementales. Et ses successeurs, on peut l'espérer, ont une situation différente. C'est ce qu'on a vu par exemple au Brésil, c'est ce qu'on voit dans un certain nombre de pays européens aujourd'hui. On peut espérer qu'il y aura un mieux dans quelques années. Et donc, mais en tout cas, il faut à tout prix qu'il y ait cette prise de conscience de la nature comme bien commun.
Quels sont les pays modèles aujourd'hui et comment se situe la France?
Alors, les pays modèles, ben, on aura bien du mal à en trouver. Hein. On a des petits pays, notamment en Amérique du Sud, qui ont des politiques environnementales intéressantes, mais qui sont dépendants finalement, là aussi, de la communauté internationale. Aujourd'hui, vous savez, on est dans un monde globalisé. Même si on essaye d'avoir au plan national une politique de qualité, on va dépendre pour des autres pays, pour ses importations de biens, pour certains biens qu'on n'est pas capable de produire, par exemple. Donc protéger la nature, mais si c'est pour encourager un écotourisme, par exemple, qui émet beaucoup de gaz à effet de serre, bah, quelque part, c'est problématique. Alors la position de la France là-dedans, elle est à la fois très vertueuse, comme je le disais, au niveau des négociations, et qui sont menées sous l'égide de ministères comme le ministère de la Transition écologique ou le ministère des Affaires étrangères. Et puis en même temps, elle est très peu vertueuse sur le plan de l'agriculture ou sur le plan de l'économie, hein, où là, les efforts n'y sont pas et on est sur des conceptions qui datent maintenant du milieu du XXe siècle et qui ne sont pas du tout à la hauteur des enjeux de ce XXIe siècle.
Vous n'avez pas mentionné le Vatican, mais je me permets de continuer à lire le paragraphe 42 de Laudato Si que je mentionnais tout à l'heure. Chaque territoire a une responsabilité dans la sauvegarde de cette famille, commune, de cette biodiversité, et devrait donc faire un inventaire détaillé des espèces qu'il héberge afin de développer des programmes et des stratégies de protection. Est-ce que quelque part, le pape François a compris cette vision moderne de la biodiversité que vous mentionniez ?
Il semble en effet, d'après ces phrases que vous mentionnez, effectivement, on est bien sur les stratégies nationales qui doivent être menées en regard notamment des accords signés comme la fameuse convention sur la diversité biologique.
Est-ce que par exemple la France a fait cet inventaire détaillé des espèces qu'elle héberge ?
Alors oui, effectivement, tout à fait. On a un programme d'inventaire national du patrimoine naturel. On a une stratégie nationale pour la biodiversité qui est relativement ambitieuse. Le problème de ces stratégies nationales comme celle sur la biodiversité, c'est qu'elles ne sont pas tant contraignantes qu'elles devraient l'être. Et surtout, alors, même si la stratégie nationale pour la biodiversité en France a été bien négociée, qu'elle comporte un certain nombre de points importants, elle a été publiée à plusieurs reprises et la dernière version a été publiée il n'y a pas longtemps et elle est très positive. Malheureusement, cette stratégie, elle est contradictoire avec la stratégie pour la transition énergétique ou la stratégie pour l'alimentation. Parce que là encore, on a du mal, si vous voulez, à l'interministériel de penser que finalement, la biodiversité nous conditionne finalement notre alimentation, conditionne notre transition énergétique. Quel intérêt finalement d'opérer une transition énergétique si on détruit les puits de carbone biologiques, y compris en France, ce qui est le cas actuellement.
En un mot, Philippe Grand-Colas, quelles sont les prochaines échéances à surveiller ?
Alors, d'une manière générale, évidemment, il faut surveiller toutes les COP. Vous savez que ces COP ont bien du mal à se tenir parce que quelque part, ça peut paraître être des réunions internationales un peu fumeuses. En réalité, ce sont des enjeux colossaux puisqu'on demande à des dizaines et des dizaines de pays, pratiquement 200 pays dans certains cas, de se réunir et d'arriver à converger sur des objectifs communs. Et effectivement, on doit être extrêmement vigilant par rapport à ces COP.
Eh bien, on les surveillera, ces COP. Merci beaucoup, Philippe Grand-Colas. Je rappelle que vous êtes entomologiste, directeur de recherche au CNRS. Vous avez publié chez Tana, Biodiversité, Fake or Not. Merci beaucoup d'avoir été l'invité de la matinale ce matin.